Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal présenté par Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, 20 députés sur un total de 29 rescapés de l'opposition sont actuellement en contentieux électoral à la Cour constitutionnelle ici à Kinshasa contre d'autres candidats malheureux de l'Union sacrée. Ces députés issus d'Ensemble pour la République et d'Avançons MS dénoncent une tentative de retour au parti unique et appellent le chef de l'État à sauver ce qui reste des acquis de la démocratie à l'Assemblée nationale. Et tête à tête de près de 3 heures hier mardi à Luanda, en Angola, entre Félix Tshisekedi et João Lourenço, en rapport avec la question sécuritaire dans la partie est du pays, avec l'escalade des tensions entre la RDC et le Rwanda. À l'issue de cette rencontre à huis clos, le ministre angolais des Affaires étrangères a indiqué que le président Félix Tshisekedi aurait donné son accord de principe de rencontrer le président du Rwanda, Paul Kagame. L'invité de ce journal est le directeur des Tropenbos RDC, une ONG qui œuvre à Kisangani dans la province de la Tshopo. Le professeur Alphonse Maindo parle du lancement du projet de la sécurisation foncière et des moyens d'existence des peuples autochtones et des communautés locales. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les députés rescapés de l'opposition issus d'Ensemble pour la République et d'Avançons MS dénoncent ce qu'ils qualifient d'acharnement de la majorité au pouvoir sur leur siège, difficilement acquis à la Cour constitutionnelle. En effet, ils sont moins de 29 élus sur 477 et plus de 20 sont en contentieux électoral ici à Kinshasa contre d'autres candidats malheureux de l'Union sacrée à la Cour constitutionnelle. Les élus d'Ensemble pour la République dénoncent une tentative de retour au parti unique et un appel au chef de l'État en sa qualité de magistrat suprême ainsi qu'au juge de la Cour constitutionnelle à un dernier sursaut patriotique pour sauver ce qui reste des acquis de la démocratie à l'Assemblée nationale. Écoutez à ce sujet Princesse Mounongo au micro de Michel Kifindangoy.
Il faut considérer que les rescapés de l'opposition soient moins de 29 élus sur 477, proclamés provisoirement par la CENI, méritent leur siège et ont été régulièrement élus, contrairement à ceux de l'Union sacrée qui détenaient illégalement des machines à voter. Cependant, force est de constater à ce jour les arrêts attendus de la Cour constitutionnelle, statuant sous pression, risquent de consacrer le retour en force du parti État avec une Assemblée nationale monocolore et instituer ainsi de fait la fin d'une démocratie pluraliste. Cet appel à sauver la démocratie de notre pays s'étend à la protection de la liberté d'expression, à la libre circulation des personnes, notamment pour notre président Moïse Katumbi Chapwe, et à une justice équitable. C'est dans ce contexte que nous en appelons à la liberté des prisonniers politiques. Salomon Idi Kalonda, Mike Mukebaikoso, Jean-Marc Kabouz, Papi Pungu, le journaliste Stanley Boujakera et bien d'autres encore.
Et puis, les candidats gouverneurs et vice-gouverneurs n'ont que quelques jours pour déposer leur dossier à la CENI. Mais déjà, Lubumbashi, le bureau de réception et de traitement des candidatures, a affiché les noms des quatre prétendants et leurs colistiers dont les dossiers reçus ont été traités et validés. Pendant ce temps, les sympathisants des uns et des autres se livrent à l'opération de séduction dans les médias traditionnels et les réseaux sociaux. D'autres précisions avec vous, Jean Gandou.
Tous les quatre candidats, dont deux hommes et deux femmes, sont des indépendants. Si jusqu'à présent plusieurs autres qui ont déjà retiré les formulaires ne les ont toujours pas déposés, ils en parlent néanmoins à travers les personnes interposées, notamment sur les réseaux sociaux et les médias traditionnels. Les partisans des uns et des autres distillent des messages pour vanter le mérite de tel ou tel autre candidat gouverneur. Pour les potentiels candidats qui sont encore aux affaires, ce sont leurs sympathisants qui étalent leur réalisation. Les autres qui n'ont pas encore géré la chose publique se plaisent de mettre en exergue les ratés des actuels dirigeants qui convoitent le poste de gouverneur. Plusieurs personnes se demandent alors pourquoi les différents candidats recourent aux réseaux sociaux et autres médias traditionnels pour mettre en évidence leurs prétentions quand on sait que l'électorat des candidats gouverneurs est constitué exclusivement des députés provinciaux. Face à cette situation, la société civile du Haut-Katanga attire l'attention des députés provinciaux pour qu'autant marqué, ils fassent un bon choix et dotent la province d'un gouverneur soucieux du développement intégral de la province. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Et pendant ce temps, dans la province du Kasaï central, la pratique du journalisme en période électorale est au centre d'une formation qu'organise à Kananga l'UNESCO en partenariat avec le PNUD et l'ONIFAM. Une cinquantaine de journalistes de Kananga et de 5 territoires du Kasaï central participent à cette session de 4 jours. À en croire Joseph Potopoto, le spécialiste des programmes de communication à l'UNESCO et facilitateur de cette session, cette formation est initiée pour évaluer la couverture des dernières élections et corriger les dérapages relevés pour une amélioration aux prochaines séances. Ces propos ont été recueillis par François Kadima.
C'est une activité post-électorale qui a été voulue dans le cadre de l'évaluation de la pratique du journalisme en période électorale. Nous avons fait une analyse critique de la manière dont les journalistes ont couvert des élections ici. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de dérapages, qu'il y avait aussi beaucoup de ratés sur le plan professionnel. Après cette analyse critique, nous avons essayé de réfléchir ensemble pour que dans l'avenir, ces gens de pratique ne se répète plus. C'est ainsi que nous avons discuté sur la planification de la couverture électorale. Les journalistes doivent avoir une bonne connaissance du cycle électoral, du calendrier aussi des enjeux. Ils doivent favoriser l'accès à l'information à toutes les parties prenantes, surtout les candidats. Ils doivent informer le public sur les enjeux des élections et aussi sur le respect de l'éthique et de la déontologie journalistique pendant ces élections.
La question sécuritaire dans la partie est du pays, avec l'escalade des tensions entre la RDC et le Rwanda, était au cœur d'une rencontre à huis clos hier mardi à Luanda, en Angola. Félix Tshisekedi est arrivé hier même dans la matinée dans la capitale angolaise. Il a échangé à ce sujet avec le président angolais au palais présidentiel de Luanda. Cynthia Bachizina Bizana pour plus de détails.
À Luanda, le président Félix Tshisekedi est accompagné de ses deux vice-premiers ministres de la Défense, Jean-Pierre Bemba, et celui des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, du ministre d'État, Antipas Mbusa Nyamwisi, ainsi que son haut représentant, Serge Tshibangu. À l'entame des discussions, les deux chefs d'État n'ont fait aucune déclaration publique. La rencontre de Luanda entre les deux présidents est une suite du mini-sommet sur la sécurité dans l'Est de la RDC, organisé en marge du sommet de l'Union africaine le 18 février dernier à Addis Abeba en Éthiopie. C'est alors que le médiateur Lourenço avait fait part de son souhait d'obtenir une rencontre directe entre le chef de l'État congolais et son homologue du Rwanda. À ce sujet, la position du président Félix Tshisekedi est restée inchangée. Une telle rencontre n'est possible qu'à la seule condition sine qua non d'un retrait immédiat des troupes militaires du RDF du territoire congolais, la cessation des hostilités au front et le cantonnement des groupes terroristes du M23, précise la présidence de la RDC.
Il faut signaler qu'à l'issue de près de 3 heures de tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et João Lourenço, aucun des deux chefs d'État ne s'est exprimé. Le ministre angolais des Affaires étrangères, qui s'est adressé aux médias, a indiqué que le président Félix Tshisekedi aurait donné son accord de principe de rencontrer le président du Rwanda, Paul Kagame. Se refusant de livrer plus de détails, le ministre Tété Antonio s'est limité à affirmer qu'il revient à la médiation de travailler sur les autres étapes pour matérialiser cette rencontre. Cependant, aucune date n'a été avancée sur cette éventuelle rencontre, encore moins les lieux de celle-ci. Et puis, il est incompréhensible que les minerais de sang puissent circuler librement jusqu'à émerger aux statistiques export des pays qui ne disposent d'aucun potentiel naturel y afférent. C'est le cas des minerais tirés de la RDC à la suite de la guerre des rapines menée par le Rwanda qui exporte sans entrave ses produits vers les pays membres de l'Organisation mondiale du commerce, OMC. Ces propos sont du ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucier Boussa, qui s'est ainsi exprimé à la 13e session de la conférence ministérielle de l'OMC qui se tient à Abu Dhabi. Selon lui, la RDC voudrait toutefois attirer l'attention sur quelques questions urgentes, notamment les investissements qui constituent un problème crucial pour les pays les moins avancés, PMA. Grâce à Mzati Masanzi pour les détails.
Le ministre du Commerce extérieur indique aussi que l'accord sur la facilitation de l'investissement pour le développement devrait prévoir des mécanismes simples, souples, flexibles et transparents, permettant l'accès aux capitaux susceptibles de booster le commerce et le développement. Jean-Lucien Boussa affirme, en ce qui concerne la subvention liée à la pêche, que son pays, la RDC, soutient les négociations en cours sur la surpêche et la surcapacité et encourage la mise en place d'un mécanisme de coopération devant empêcher la pêche illicite et l'arraisonnement des bateaux de pêche dans les eaux territoriales entre pays voisins. Il dénonce la violation de certaines règles et disciplines du système commercial multilatéral, surtout en ce qui concerne des minerais. Pour Jean-Lucien Boussa, cette 13e conférence ministérielle de l'OMC est une occasion au PMEA, dont la RDC, d'imaginer comment rendre efficace le traitement spécial et différencié dans le but d'atteindre des résultats escomptés et les aider à procéder au classement et à sortir de cette catégorie des économies vulnérables. Le ministre du Commerce extérieur plaide également pour l'amélioration des règles qui les régissent, lesquelles devenues impératives dans le but de permettre l'atteinte de l'idéal et aussi permettre à chaque acteur la jouissance équitable des profits.
À Goma, la population du quartier Bouzovou, du côté de l'aéroport, se plaint de la dégradation de la sécurité dans cette partie de la ville. D'après plusieurs témoignages, des personnes armées sèment la terreur dans ce quartier et la population se sent désorientée. Des coups de feu, parfois nourris, sont entendus pendant la nuit, accompagnés de cambriolages, de porte à porte sans aucune intervention des autorités, rapportent les habitants. L'un d'eux affirme même qu'ils ont essayé de s'organiser pour effectuer des patrouilles de surveillance, mais ça n'a pas abouti car ils faisaient face aux personnes armées. C'est pourquoi ils sollicitent l'implication des autorités compétentes. Écoutez ce témoignage recueilli par Sifamagourou.
Ce qui nous fait mal est que ça fait un mois que des balles crépitent. Nous sommes cambriolés sans aucune intervention. Notre quartier est au-dessus des supermatchs. Nous avons été visités la nuit vers 0h alors que nous sommes à côté de l'aéroport où il y a des militaires. Il y a aussi le bureau de la police des mines où il y a beaucoup de policiers. Il y a la police des frontières où on a beaucoup de militaires. Et même à l'entrée du quartier, au niveau des pavés des supermatchs, il y a un bureau de la police. On a tiré la nuit depuis 0h jusqu'à 1h45. Nous n'avons eu aucune intervention alors que nous sommes au milieu d'eux. Même le matin, personne n'est venu demander ce qui s'est passé. Des militaires étaient armés et les jeunes portaient des effets, notamment un sac à main d'armes, apparemment qu'ils venaient de voler. La population était fatiguée et elle est sortie la nuit pour exprimer sa colère. Même le chef de quartier est dépassé par cette situation.
Le responsable de la police de Karisimbi 2, qui a en charge cette partie de la ville, reconnaît que ce quartier fait l'objet d'incursions d'hommes armés. Des mesures ont été déjà prises par la police et la situation est en train de s'améliorer, déclare ce responsable de la PNC. En bref, dans la ville de Beni, au Nord Kivu, les importateurs des produits pétroliers viennent d'élever leur grève déclenchée lundi dernier pour protester contre l'émission par les parquets près des tribunaux des grandes instances de Beni des mandats de comparution contre certains d'entre eux. La justice leur reprochait notamment la fixation illicite des prix du carburant. Selon le président de l'association des pétroliers de Beni, au cours d'une réunion du comité urbain de sécurité, ils ont été autorisés à vendre à 3500 francs congolais le litre d'essence à la pompe. Et puis le monde célèbre ce mercredi 28 février la journée sans Facebook instaurée en 2010. Cette journée est l'occasion de sensibiliser les utilisateurs des médias sociaux comme Facebook, Instagram et TikTok sur leurs conséquences sur la santé mentale et physique. C'est dans l'objectif de lutter contre la cyberdépendance. Des détails avec Sadiki Aboubakar.
Peut-on vraiment se passer de Facebook pendant une journée? Les avis des jeunes de Beni sont partagés à ce sujet. Bernard Kaboué est infographe. Pour lui, Facebook est un outil important pour le développement de sa carrière et ne peut s'en passer.
En dehors d'être un réseau social, c'est aussi un puissant outil pour moi. Donc avec Facebook, c'est facile pour moi de me rapprocher de certains autres créateurs de contenu qui sont peut-être en dehors de ma ville, de mon pays.
Sandrine Kaïsiandire est étudiante. Elle affirme qu'elle peut se passer de Facebook même pendant une année.
Facebook, j'aime pas trop parce que les messages qui viennent de Facebook sont pas fiables, qu'il y a tout le monde là-bas.
Cet avis est partagé par Grace Malonga, une autre étudiante en sciences de l'information et communication.
Quand je consulte Facebook, c'est pour rire en fait, pour des blagues.
Par contre, Henri Mwenda, sportif, a du mal à passer 24 heures sans Facebook.
Je m'informe plus sur le sport sur Facebook. Ça ne sera pas vraiment facile de passer une journée sans Facebook.
Par ailleurs, passer plus de 4 heures devant l'écran pour un jeune peut affecter son cerveau et l'exposer à plusieurs troubles de santé, dont l'épilepsie, indique le docteur Baba Mutuza, médecin directeur de la clinique Dieu est grand. Les adultes, eux, sont exposés notamment au manque de sommeil, ce qui peut entraîner la névrosité et l'amaigrissement. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Actualité internationale. 4 jours pour valider les objectifs du futur dialogue intermalien censé permettre l'appropriation nationale du processus de paix. Ce dialogue a été annoncé il y a près de deux mois à l'occasion du nouvel an et a été doté fin janvier d'un imposant comité de pilotage de 140 personnes qui propose à présent un plan de travail à valider ou à amender d'ici demain jeudi. Et puis 3 ressortissants italiens d'une même famille qui avaient été enlevés au Mali en mai 2022 ont été libérés dans la nuit du 26 au 27 février 2024, a annoncé hier mardi le gouvernement italien.
L'invité.
L'invité de ce journal est le directeur de Trepombos RDC, une ONG qui œuvre dans la province de la Tchopo. Le professeur Alphonse Maindo parle du lancement du projet de la sécurisation foncière et des moyens d'existence des peuples autochtones et des communautés locales. Il s'entretient avec Jacques Moukonkolé.
Professeur Alphonse Maindo, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de lancer officiellement un nouveau programme spécialement dédié à la foresterie communautaire. En quoi consiste-t-il exactement ?
C'est un programme spécialement dédié à la foresterie communautaire qui vise à la sécurisation foncière et à la sécurisation des moyens d'existence de peuples autochtones et des communautés locales, avec le soutien de Tenure Facility qui est un mécanisme financier suédois.
Qu'est-ce que justifie ce nouveau programme de sécurisation foncière et des moyens de subsistance des communautés locales?
C'est parce qu'aujourd'hui, face aux enjeux climatiques et environnementaux, il y a des vulnérabilités des communautés locales qui apparaissent à cause du fait qu'il y a déforestation, mais il y a aussi spoliation des terres et des forêts par des élites et qui s'approprient et qui thésaurisent ces forêts et au détriment de ces communautés-là. Alors ce programme-ci part donc d'une crainte que les communautés se retrouvent sans moyens d'existence, parce que pour eux, la forêt, c'est vraiment la vie, c'est leur habitat, c'est aussi leur moyen, c'est là aussi qu'ils puissent, ce dont ils ont besoin pour vivre. Alors, il faut trouver un mécanisme, et or, l'État congolais a mis en place cette stratégie nationale de foresterie communautaire comme un outil pour permettre non seulement le développement, mais aussi pour donner plus de pouvoir aux communautés pour gérer les forêts, et ça à titre perpétuel.
Et professeur, la sécurisation n'est pas un nouveau programme. Et en quoi celui-ci est-il différent des autres?
La grande différence avec les programmes précédents, c'est que la sécurisation foncière faisait partie des éléments d'un grand programme qui consistait à avoir de paysages respectueux du climat, tout ça. Et donc, et la sécurisation foncière comme un aspect spécifique, et or ici, c'est un programme qui est totalement dédié à la foresterie communautaire. Donc on a 36 mois pour avoir 30 nouvelles concessions forestières de communautés locales, mais pour aussi appuyer 12 concessions forestières de communautés locales qui ont déjà des titres à rentrer dans la gestion et dans l'exploitation de ces forêts pour leur intérêt et tout ça. Donc on a là, si vous voulez, une grande différence. Et donc c'est la première fois, je vous dis ici dans la Tchopo, et même pour nous, Trepombos, d'avoir un programme uniquement dédié à la foresterie communautaire. Donc, parmi les spécificités, c'est de regarder quelles sont les parties prenantes, même qui ne sont pas légalement prévues pour participer dans le processus d'obtention des titres de foresterie communautaire ou dans l'exploitation, dans la mise en valeur, mais qui ont une capacité soit positive, soit négative, d'influer sur le processus d'attribution, d'attention de ce titre, et nous les avons associés à ces programmes. Un autre élément distinctif qui est important ici, ce que nous avons voulu par rapport au projet qu'on fait antérieurement, c'est de dire, voilà, si on veut réussir les défis qu'on a d'avoir 30 nouvelles CFSL dans un délai de 36 mois, il faut qu'il y ait des critères de performance. Et donc, on va signer des contrats de performance avec les différentes parties prenantes. Et ça, c'est une nouveauté.
Et combien de parties prenantes au total? Et sur quel axe va se développer ce programme?
Alors, il y a plusieurs parties prenantes. Ici, je peux faire un regroupement, il y a à peu près 5 parties prenantes. Il y a d'abord les organisations de la société civile et les partenaires les partenaires techniques et financiers. Ça, c'est le premier groupe de parties prenantes. Deuxième catégorie, ce sont les politiques. Ici, l'Assemblée provinciale, donc les députés, les personnalités politiques, le gouvernement provincial, les cabinets politiques. Ça, c'est les deuxièmes parties prenantes. Troisième partie prenante, ce sont les chefs traditionnels et les chefs coutumiers. Et donc, qui jouent aussi un rôle important parce que c'est eux qui gèrent les communautés au quotidien, tout ça. Et quatrième partie prenante, ce sont les communautés locales et qui sont là avec aussi les organisations communautaires de base qu'elles-mêmes créent. Et cinquième catégorie qui est aussi large, c'est l'administration. l'administration, les services techniques de l'État. Donc la coordination provisoire de l'environnement, les développements ruraux, l'aménagement du territoire, les affaires coutumières, donc les ETD, les chefs de secteur et les chefs de chefferie. Donc voilà, si vous voulez, les parties prenantes. Maintenant, la zone d'intervention dans laquelle on va faire ce programme, c'est, nous allons faire ça ici dans la province de la Tchopo, dans 5 territoires et 9 secteurs et chefferies dans lesquels on va intervenir avec 30 communautés.
Et pourquoi avoir mis de côté les 2 autres territoires de la Tchopo?
Alors, parce qu'il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, des raisons d'ordre budgétaire et financier, et aussi des considérations de l'accessibilité ici. Ça comprend également l'aspect sécuritaire. Est-ce qu'on peut accéder facilement dans telle zone?
Professeur Alphonse Maindo, merci.
Je vous en prie.
Notre invité, le professeur Alphonse Maindo, directeur de Tropenbos, une ONG qui œuvre dans la province de la Tchopo, s'entretenait à Kisangani avec Jacques Moukonkolé. Infiniment merci à vous de continuer à réécouter ce journal sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.